Bien. Merci d'être venus aussi nombreux pour le début d'un nouveau cycle de cours, puisque le précédent s'est terminé au bout de 20 ans, dont 11 au collège, sur la Palestine. Alors, je ne sais pas combien de temps ce cycle va durer. J'avais à l'esprit deux possibilités éventuelles, soit de faire une étude sur la question d'Orient pour permettre de comprendre comment les événements d'aujourd'hui ne sont que la continuation, en tout cas de la grammaire ou de la syntaxe, de la question d'Orient. Et puis mon autre projet était de faire un cours sur la Première Guerre mondiale et la naissance des États au Proche-Orient. Alors en fait, c'est toujours l'écriture qui commande. Alors j'avais annoncé plutôt le second projet, mais on est parti au moins pour cette année et probablement aussi une bonne partie de l'année prochaine pour quelque chose qui va d'abord être l'Empire ottoman dans la question d'Orient au 19e siècle, de toute façon, parce que tout simplement, la Première Guerre mondiale n'est pas au Proche-Orient, n'est pas compréhensible sans la question d'Orient. Question d'Orient qui, selon l'expression du grand historien britannique Arnold Toynbee, en 1923, n'est qu'une question d'Occident. Le livre était classique, un grand classique, Western Question, des premiers grands livres d'Arnold Toynbee. Dans l'idée de Toynbee, dans cette question d'Orient, d'Occident, question d'Occident, parce que la question d'Orient, d'abord, oppose des Occidentaux entre eux. Donc c'est pour ça que la question d'Orient est d'abord une question d'Occident. Mais ensuite, et c'est plus subtil, Toynbee analysait le phénomène de la question d'Occident comme étant celle de l'occidentalisation des sociétés du Proche-Orient. Et ça amenait Toynbee à l'époque, en 1923, à des positions assez curieuses, puisque dans la Première Guerre mondiale, comme fonctionnaire britannique du Bureau de la propagande au ministère des Affaires étrangères britannique, il avait fait le premier recueil d'études et de recherches documentaires sur le génocide des Arméniens. Et en 1923, en revanche, il prend la défense de la Turquie contre les Grecs. Donc, ça avait beaucoup surpris. Alors, en effet, l'interprétation de ce qui se passe dans les dernières années de l'Empire ottoman ne peut pas passer sans une compréhension des problématiques de modernisation des sociétés du Proche-Orient au XIXe siècle, au-delà des sociétés allant de la Méditerranée au Japon, qui est une des grandes questions du XIXe siècle. Et l'une des plus grandes difficultés de compréhension du devenir ottoman, sans avoir une perspective que l'on dit est logique, c'est-à-dire on sait comment ça s'est passé à la fin, donc on sélectionne les événements pour expliquer le fil conducteur, le récit qui conduit à la fin de l'Empire, c'est le problème de la projection des réalités d'après la Première Guerre mondiale sur les sociétés du XIXe siècle. Nous aurons l'occasion très largement d'y revenir sur ce point, mais énormément de termes d'expression, y compris qu'on trouve dans les documents de la Première Guerre mondiale, n'ont pas encore les significations qu'elles auront, enfin, qu'elles auront après 1920. D'où des contresens permanents sur les discussions de la Première Guerre mondiale. Mais au-delà, on a le grand paradoxe du XIXe siècle. Grand paradoxe du XIXe siècle, parce que d'un côté, vous avez une Europe que Pont a appelée tout simplement démiurgique. C'est l'Europe du bourgeois conquérant, selon un livre célèbre, l'Europe qui construit la modernité, qui l'a produit dans les arts, les sciences, la culture, la technologie. C'est vraiment le grand démiurge du XIXe siècle. Mais cette Europe, entre 1815 et 1914, est une Europe relativement stable. Une fois le cycle des guerres napoléoniennes, l'affaire révolutionnaire et napoléonienne terminée, et avant la grande ordalie de 1914, l'Europe est stable. Ses cadres politiques sont solides. Bon, vous avez l'unité allemande, l'unité italienne, certes, mais vous n'avez pas de transformation radicale des espaces, des structures étatiques, des géographies du XIXe siècle européen. Et surtout, même si c'est le siècle des nationalismes en Europe, les référents identitaires des sociétés européennes sont stables. Alors qu'en revanche, les sociétés islamiques et au-delà, celles qui sont immédiatement voisines de l'Europe, évidemment, ne sont pas à la tête de la modernité au XIXe siècle, mais elles enregistrent des métamorphoses bien plus fortes, bien plus intenses que les métamorphoses européennes. Si vous passez de 1815 à 1914 au Proche-Orient, c'est pratiquement un monde qui n'a plus rien à voir. Et les façons dont les gens se définissent, s'habillent, se réfléchissent, etc., dans le monde musulman, ont été totalement transformées dans ce siècle. Autrement dit, l'Europe est démiurgique, mais les métamorphoses sont beaucoup plus fortes dans la périphérie européenne que dans l'Europe elle-même. D'où aussi l'importance de tenir compte des discours qui sont tenus sur cette scène. Les discours que l'Europe tient sur les sociétés non européennes enregistrent les transformations des sociétés non européennes, mais aussi ces discours sont performatifs. Ces discours même conduisent à la transformation des sociétés non européennes. Là, il faudrait reprendre, en soulignant le trait, le sous-titre qui avait été donné à l'édition française du grand livre d'Edouard Said de l'orientalisme, la formule « L'Orient créé par l'Occident ». Formule qui était très contestable d'un certain côté, puisqu'elle était même un non-sens. L'Orient créé par l'Occident, puisqu'Edouard Saïd accusait les orientalistes d'avoir une perspective essentialiste sur les sociétés orientales, mais il partait d'une essence qui était l'Occident. Et Edouard Saïd, d'ailleurs, a compris plus tard qu'il y avait là, évidemment, un problème et a corrigé le tir dans ses derniers écrits où il refusait justement de pouvoir considérer l'Occident comme une essence, contrairement à ses premiers textes. Mais en tout cas, la formule « L'Orient créé par l'Occident » a sa part de vérité si l'on comprend que l'entrecroisement des deux mondes dans des contextes historiques en perpétuelle modification ont engendré un dialogue parfois heurté, dans un dialogue parfois heurté, les nouvelles transformations. Alors, évidemment, nous allons partir évidemment d'un premier chapitre qui s'intitulera « Arabes et Ottomans » pour déjà poser des définitions qui seront immédiatement transformées par les événements qui sont dans la suite de la description. Évidemment, nous devons toujours avoir à l'esprit que le monde musulman est le voisin immédiat de l'Europe, que l'histoire des relations entre le monde musulman et l'Europe n'est pas de même nature que les relations entre l'Europe, la Chine ou l'Inde ou le Japon. L'Europe a rencontré ces espaces à partir du XVIe siècle. Mais le monde musulman, il est le voisin immédiat de l'Europe. Les contacts, les relations sont permanentes. Nous aurons l'occasion de le rappeler à de très nombreuses reprises, mais au début du XIXe siècle, la Méditerranée, en tout cas sur ses rives, est majoritairement musulmane. Toute la côte africaine, évidemment, la côte asiatique, mais aussi une bonne partie de la côte européenne, c'est-à-dire la péninsule des Balkans, fait partie du monde musulman. Selon une expression consacrée, mais dont il faut avoir le terme à l'esprit, pendant 3 siècles ou 4 siècles, l'Orient commence à Trieste, où l'islam commence après Trieste. Ça, c'est une réalité historique essentielle que nous avons trop tendance à oublier de nos jours quand nous essayons de discuter savamment pour savoir si la Turquie fait partie ou non de l'Europe. Une bonne partie de l'Union européenne d'aujourd'hui est composée de territoires ex-ottomans. Et il y a encore un peu plus d'un siècle, encore en 1912, les Ottomans étaient sur l'Adriatique, sur la côte albanaise. C'est évidemment des éléments que l'on a tendance aujourd'hui à négliger. En tout cas, évidemment, là, on pourrait partir de multiples points. À la limite, on devrait partir de la préhistoire pour essayer d'expliquer les régions du Proche-Orient, mais heureusement qu'il y a ici des chaires d'assyriologie, d'études sémitiques, d'égyptologie et autres qui permettent de couvrir ces champs. Donc, je partirai ici du début du XVIe siècle, quand les Ottomans arrivent dans le monde arabe. Mais ayant pour mémoire que les Ottomans ont commencé la conquête des Balkans aux alentours de 1350. Et que donc, ils n'arrivent qu'en 1516 dans les régions arabophones. Pourquoi cette expansion? Il y a deux raisons essentielles qui expliquent l'expansion ottomane dans le domaine arabe. La première est la guerre qui vient de s'enclencher entre l'Empire ottoman, qui est en train de se définir comme la grande puissance musulmane sunnite, et la Perse des Safavides, qui est en train de se définir comme la grande puissance chiite. Et s'enclenche donc au début du XVIe siècle un cycle de guerres irano-ottomanes ou persano-ottomanes qui sont considérées par les historiens comme l'équivalent des guerres de religion en Europe entre catholiques et protestants. Vous avez un synchronisme entre ces guerres musulmanes et ces guerres européenne. Et donc, dans le cadre de ces guerres, les Ottomans couvrent leurs flancs en s'emparant en 1516-1517 du sultanat mamelouk d'Égypte, qui couvre toute la Syrie, et puis ensuite ils s'étendent sur l'Irak, qui devient une zone de guerre permanente qui va durer jusqu'au XIXe siècle entre l'Empire ottoman et l'Empire persan, puisqu'il y a plusieurs dynasties qui se suivent. Persan pose problème dans la terminologie, parce qu'il faut rappeler que les dynasties qui vont gouverner ce qui les rend aujourd'hui, jusqu'au XXe siècle, sont des dynasties d'origine turque. Que ce soit les Safavides, puis ensuite les Qadjars, ce sont des dynasties turcophones qui, et elles ont remplacé des dynasties mongoles. Donc, Reza Shah Pahlavi sera le premier Iranien à gouverner l'Iran depuis plusieurs siècles. Mais ce n'est pas la nouveauté, puisqu'en Égypte, on dira que c'est Naguib sera le premier président égyptien, enfin, le premier chef d'État égyptien depuis la fin des pharaons. Il faut avoir le sens de ces nuances. En tout cas, l'arrivée des Ottomans dans ce qui va devenir les provinces arabes de l'Empire ne pose pas de problème particulier. D'abord parce que ça fait des siècles que ces régions ne sont pas dirigées par des Arabes. Il y a eu des dynasties turques, kurdes, et finalement le sultanat mamelouk, c'est-à-dire des sultans esclaves d'origine étrangère par définition. Il n'y a pas depuis des siècles de conscience politique arabe dans ces régions. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Surtout, ces conquérants ont une communauté de religion avec les territoires conquis. Ils sont tous les deux majoritairement musulmans sunnites. Ils sont légitimes parce qu'ils combattent soit l'hérésie, c'est-à-dire le chiisme, soit les chrétiens occidentaux, ce qu'on appelle les francs dans le langage, terme qui va durer jusqu'au début du XIXe siècle, l'occasion d'y revenir sur ce sujet. Ils apparaissent donc, pour les habitants qui entrent dans l'Empire au début du XVIe siècle, comme totalement légitimes. Et ensuite, dans les décennies qui suivent, dans des processus historiques complexes, le reste de l'Afrique du Nord se rallie plus qu'il n'est conquis par les Ottomans, à l'exception du Maroc. Et l'autre raison qui avait aussi expliqué le ralliement de ces régions arabes à l'Empire ottoman dans sa globalité, ou l'absence de résistance, était la menace portugaise dans l'océan Indien, puisque depuis le passage du Cap de Bonne-Espérance et l'arrivée de Vasco de Gama, les Arabes et les musulmans de l'océan Indien sont très inquiets du danger portugais et ils ont besoin d'une grande puissance pour les protéger. Notons en passage que c'est au début du XVIe siècle que les Européens arrivent dans l'océan Indien, donc prendre à revers le monde de l'islam, et qu'en un sens, même on nous le verra dans la suite du cours, pas cette année, mais l'année prochaine, la notion de Moyen-Orient, c'est-à-dire espace politique entre la Méditerranée et l'océan Indien, prend déjà un sens au XVIe siècle, par rapport à l'arrivée des Portugais dans l'océan Indien. Alors, le modèle de gouvernement des Ottomans a été un peu le produit des derniers siècles d'expérience politique en islam méditerranéen, en particulier héritage des sultanats mamelouks et autres, qui est une division fonctionnelle entre gouvernant et gouverné. Les gouvernants étaient définis, une fois pour toutes, comme étant les esclaves du sultan. On appelait ça en turc les kul. Et le sultan avait droit de vie et de mort sur leurs biens et leurs personnes. C'était ses esclaves, même si ses esclaves accédaient au plus haut niveau des responsabilités de l'État. Cet esclave, donc cette classe sociale de gouvernants, en arabe on disait Rukam, pluriel de Hakim, gouvernant tout simplement. Donc ces gouvernants formaient l'infrastructure militaire et administrative de l'Empire. Et ces gouvernants n'avaient surtout pas le droit de succession héréditaire dans les fonctions de pouvoir. C'est ce que le grand sociologue et anthropologue Ernest Gellner appelait une classe castrée. Et pour Gellner, il y avait une homologie des classes castrées entre l'Occident catholique et l'islam. En islam, les gouvernants militaires et administratifs étaient la classe castrée, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas le droit de se perpétuer biologiquement. Et en Occident, c'était le clergé qui était la classe castrée. Mais en tout cas, donc, Gellner, ce grand sociologue, faisait l'homologie entre les deux classes castrées dans les deux sociétés d'Ancien Régime, la musulmane et l'européenne. Pendant longtemps, ces gouvernants avaient été recrutés, de force évidemment, dans les populations chrétiennes de l'Empire. Ils avaient déjà en général enlevé comme jeunes enfants et fournis comme esclaves, élevés dans la maison sultanienne ou les maisons annexées à la maison sultanienne, et formés sur place pour devenir les militaires et les administrateurs de l'Empire. C'est un système de recrutement servile qui avait déjà plusieurs siècles d'histoire dans le monde musulman et qui, en quelque sorte, était la réponse des pouvoirs à la théorie d'Ibn Khaldoun. C'est Ibn Khaldoun, ce grand penseur arabe du XIVe siècle. Les pouvoirs musulmans tiraient leur force de l'extérieur, et c'est-à-dire soit des milieux bédouins ou turcs, etc. Mais une fois que ce pouvoir arrivait au pouvoir, enfin s'accédait au pouvoir par la conquête, la génération suivante commençait à s'amollir, et puis à la dernière génération, il n'y avait plus d'énergie. Et il était remplacé par l'arrivée d'un nouveau pouvoir extérieur. Donc, selon la théorie khaldounienne, un État musulman ne pouvait pas durer plus de 3 ou 4 générations parce qu'il perdait son pouvoir par amollissement des générations successives. Or, avec un système de recrutement servile, vous évitez ce problème puisque vous renouvelez intégralement le stock à chaque génération. Et donc, l'Empire ottoman serait, avec les Mamelouks évidemment, les premiers États musulmans à éviter la malédiction khaldounienne des 3-4 générations et à entrer dans des cycles d'histoire de longue durée. Alors, après la fin de l'expansion de l'Empire, disons, dans la seconde moitié du XVIe siècle, progressivement, le recrutement servile s'est tari, enfin, le recrutement dans les populations chrétiennes s'est tari, et de plus en plus, on a pris des musulmans libres dans ces classes militaires, même si on continue de recruter des mamelouks, c'est-à-dire des esclaves proprement dits, militaires, dans un certain nombre de provinces. Alors, mamelouks, ce sont des esclaves, mais par rapport au mot utilisé pour définir esclave, mamelouk signifierait plutôt propriété de l'État, comme notion. Et des mamelouks, nous aurons l'occasion d'y revenir, on en a encore dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le système mamelouk va durer aussi tard que cela. Mais en tout cas, ces mamelouks, souvent caucasiens, vont continuer d'être recrutés dans l'Empire. Alors, dans les provinces arabes, comme dans le reste de l'Empire, les gouvernants, les hokam, les kouls, vous rappelez, vous avez, dans les livres, on vous disait en Algérie, il y avait les kouls qui étaient les conquérants ottomans, turcs, et leurs enfants, les kouloulous, ne pouvaient pas accéder au pouvoir parce qu'il ne fallait pas que des enfants d'indigènes accèdent au pouvoir. Non, ce n'est pas ça. C'était la règle. Les kouloulous ne peuvent pas accéder au pouvoir partout dans l'Empire. Ce n'est pas simplement en Algérie. Ces esclaves, enfin ces gouvernants, étaient de culture turco-ottomane. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, il faut bien comprendre que les éléments turcs sont arrivés dans le monde de l'islam via la Perse. Ils sont arrivés d'Asie centrale. Donc, évidemment, ils sont arrivés dans le monde de l'islam par la Perse. Et donc, la culture turque a d'abord été influencée par une culture persane qui était elle-même souvent d'expression arabe. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de mots dans la langue turque ottomane sont des mots arabes venus du persan. La culture de base des Turcs était une culture islamique persane très influencée par les Arabes, et ce n'est qu'au XVIe siècle que les Turcs entrent, enfin ces Turcs-là, entrent directement en communication avec les Arabes. Donc ils sont de langue, de culture turco-persane, et ils sont recrutés très majoritairement dans les Balkans et en Anatolie. La durée théorique des gouverneurs était censée être brève, puisque l'Empire ottoman procédait à une rotation rapide des cadres dans le cadre de l'efficacité administrative. En réalité, un certain nombre de familles turco-ottomanes se sont établies sur place et se sont progressivement fondues dans la population. On a des cas bien connus de familles dirigeantes, de gouverneurs ottomans venus des Balkans, de Bosnie, parce que la Bosnie fournissait beaucoup de cadres à l'Empire ottoman, et qui se sont établis en Syrie pour gouverner. Et puis, à la génération suivante, ils n'accédaient plus au pouvoir, mais ils sont restés. Et beaucoup de grandes familles notabilières syriennes sont d'origine balkanique, par exemple, comme les Mardambe, par exemple. Ils sont des ancêtres balkaniques. De même, au départ, les contingents militaires ottomans stationnés dans les provinces arabes étaient censés stationner que pour des courts moments dans le cadre de rotation des forces armées, mais au fil du temps, ces unités sont devenues des réalités durables, les soldats devenant des soldats héréditaires, et s'inscrivant dans la structure urbaine des sociétés du Proche-Orient, c'est-à-dire en gros que le corps des janissaires du Caire ou d'Adamas ou d'Alep a pratiquement fusionné avec les classes de commerçants et d'artisans de ces grandes villes arabes. Alors, face aux gouvernants, vous avez les gouvernés. Dans l'idéologie politique ottomane, les gouvernés disposaient de la protection de la loi islamique. Leurs biens et leurs personnes étaient donc protégés par l'application de la loi islamique, contrairement aux gouvernants. Ça, c'était en tout cas l'idéologie du régime. Autrement dit, c'est normal, d'abord parce que toute société dans ces régimes a la même idéologie, le pouvoir, en théorie, est là pour exercer la justice envers ses administrés et de traiter avec justice ses administrés. Et en islam, la notion de justice prend l'idée classique, traditionnelle, d'imposer le bien et d'interdire le mal, qui est évidemment le premier discours du pouvoir ottoman. Donc, dans la pensée politique ottomane, les gouvernés sont protégés. Il y a une petite anecdote qui surprend toujours les voyageurs européens. Ça se passe à Istanbul dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il y a un des nombreux incendies qui ravagent la ville. Et le sultan ne peut pas détruire les maisons pour couper le feu, parce que c'est le bien de ses administrés. Il n'en a pas le droit. Et c'est ce qu'on explique aux Européens qui ne comprennent pas qu'il n'y a pas une solution d'urgence, etc., qui permettrait de faire obstacle au droit de propriété. Il est absolu, le sultan ne peut pas détruire la maison de ses sujets parce qu'ils sont protégés, parce qu'ils sont gouvernés. Et c'est là, nous aurons l'occasion d'y revenir dans la suite, la complexité de la définition des non-musulmans comme protégés, puisque les musulmans, quelque part, sont aussi des protégés du pouvoir, dans un autre sens, mais ils le sont aussi. Alors, vous avez évidemment un groupe intermédiaire entre les gouvernants et les gouvernés. Ce que l'on appellera, à défaut d'autre chose, les notables. Ces notables réunissent l'élite commerçante, économique, sociale et religieuse de l'Empire. C'est-à-dire qu'une partie de l'administration ottomane est composée de notables. Il s'agit des familles de religieux, où la succession est là très souvent héréditaire. Dans les magistratures religieuses de musulmanes, on a sur le plan local des grandes familles qui captent pendant des décennies, voire plus, voire des siècles, la gestion de telle ou telle magistrature religieuse. Et à côté, vous avez donc les grands commerçants qui font donc le commerce de l'Empire. Et on s'est aperçu que si l'idéologie du régime ottoman dans les provinces arabes ou ailleurs faisait une claire distinction entre gouvernants et gouvernés, il n'est pas non moins clair que le milieu des notables formait la classe dirigeante avec les gouvernants. Tout simplement parce que le système fiscal de l'Empire ottoman était fondé sur la ferme fiscale, comme en France à la même époque, la ferme générale, ce qu'on appelait l'iltizam dans les provinces arabes, et au-delà dans l'Empire ottoman. Et ces fermes fiscales d'un an, deux ans, trois ans ou plus, de ressources aussi bien rurales qu'urbaines, il y avait une ferme fiscale des douanes par exemple, ces fermes fiscales étaient exploitées par les notables comme par les gouvernants. Autrement dit, si on analysait la composition des détenteurs de titres d'une ferme fiscale, ont trouvé des grands religieux, des grands commerçants et aussi des gouvernants, des magistrats, des militaires, des administrateurs. Et de même, on s'est aperçu qu'on a pu accéder aux archives des tribunaux, des mahkamats, c'est-à-dire l'équivalent des archives notariales, que les relations matrimoniales étaient considérables entre le milieu des notables et les milieux des gouvernants. Autrement dit, il est difficile justement de faire une distinction de type colonial entre une classe dirigeante ottomane et une classe, une société indigène arabe, puisqu'en réalité, les élites arabes faisaient partie de la classe dirigeante, puisqu'elles partageaient avec les gouvernants les fermes fiscales, c'est-à-dire la principale ressource financière et économique de l'Empire ottoman. Et ces notables, en particulier les plus importants d'entre eux, disposaient d'importantes clientèles locales, de vastes réseaux d'influence, ce qui faisait que les gouvernements ottomans étant des gens pragmatiques, quand il était difficile de pouvoir diriger directement une région, pour des raisons de complexité géographique ou de rapport de force, eh bien, on investissait un grand notable pour diriger la région et non pas un gouverneur. Et il faisait le boulot au nom du pouvoir ottoman. Ce qui explique, par exemple, que pour les régions difficilement contrôlables de l'est de l'Anatolie, c'était des émirs, des princes, des agas kurdes qui gouvernaient au nom de l'Empire ces régions, puisque de toute façon, c'était beaucoup moins coûteux de demander aux chefs kurdes de diriger la région que d'envoyer un gouverneur qui imposerait son autorité sur les Kurdes. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Dans pas mal de secteurs des provinces arabes à différentes époques, vous avez des gouverneurs arabes, voire des cas, des gens investis par le pouvoir ottoman à la place des gouvernants pour tenir les postes de commande, mais ceci par pur pragmatisme du fonctionnement ottoman. En fait, nous aurons l'occasion d'y revenir. Cette réalité est assez proche de ce qu'on a appelé le gouvernement indirect, le direct rule des empires coloniaux français et britanniques en Afrique, où on gouvernait des régions par le biais des chefs locaux. En tout cas, la différence est conséquente entre les provinces arabes et le reste de l'Empire. D'abord, contrairement au reste de l'Empire ottoman, la culture, la langue d'expression culturelle, reste l'arabe dans les provinces arabes. Vous n'avez pas de disparition comme langue de culture des langues locales, contrairement aux Balkans. L'arabe reste la grande langue de culture des provinces arabes. Et contrairement au reste de l'Empire, par exemple, durant toute la période ottomane classique et même au-delà, les actes juridiques, les tribunaux, etc., sont en arabe et pas en turc dans les provinces arabes. Alors, dans les textes de l'époque, les habitants, les indigènes des provinces arabes, si on peut utiliser à défaut d'autre chose le terme, appellent les Ottomans les Roum ou Roumis, pluriel Awam. Être oumé, c'est être anatolien ou balkanique. Vous avez évidemment reconnu dans le mot Rome. Ah, ce sont les gens qui viennent de l'ancien empire de Rome, c'est-à-dire de l'ancien empire byzantin. Alors faites attention, Romains peuvent dire soit des Anatoliens et des Balkaniques, mais surtout des Anatoliens au sens générique du terme, quelle que soit leur religion, ou peuvent renvoyer aux chrétiens orthodoxes. C'est les deux sens possibles du mot Rum en arabe, puisque, rappel historique, le premier sultanat turc d'Anatolie qui combat les Byzantins, c'est le sultanat de Rum, donc de Rome. De ce point de vue, les gens utilisaient le mot arabe pour nommer les habitants de la péninsule arabique et les bédouins de langue arabe. Donc, si vous disiez arabe, ça voulait dire des bédouins ou des gens de la péninsule arabique. Si on utilisait le pluriel urban, urban pouvait signifier tous les nomades, qu'ils soient arabes ou turkmènes. Les turkmènes étant des nomades turcophones, qu'on appelle aussi les turcomans, qui existent toujours, d'ailleurs. Les élites urbaines des provinces arabes se définissaient sur un terme dont nous ne savons pas exactement, nous n'arrivons pas exactement à en comprendre le sens, ils se définissaient comme Aoulad el-Arab, les enfants des Arabes. C'est-à-dire que, en gros, ceux qui pouvaient se définir comme sédentaires, arabophones, de généalogie arabe, c'est-à-dire renvoyant à la péninsule arabique, c'était ça, les Aoulad al-Arab. Ils n'étaient pas arabes, ils étaient les enfants des Arabes. Ils avaient donc une généalogie qui les renvoyait à la péninsule arabique et aux deux ancêtres éponymes des Arabes, enfin pas éponymes, mais deux ancêtres théoriques des Arabes, soit Kartan, soit Ismaïl, selon les traditions. En général, donc, dans le croissant fertile, les gens des villes, les urbains, les sédentaires sont des enfants des Arabes, mais pas des Arabes, les Arabes étant les Bédouins, dans les langages de l'époque. Une grosse exception, c'est l'Égypte. En Égypte, vous avez des gens des élites urbaines et autres qui sont des Aoulad de l'Arabe, des enfants des Arabes, mais la masse de la population égyptienne est appelée communément fallah, paysan, même si ce sont des gens qui habitent depuis des siècles dans les villes. Ils sont fallah tout simplement parce qu'ils n'ont pas de généalogie arabe. Donc, dans la vallée du Nil, on fait une opposition forte entre les paysans, qui sont en gros descendants des Égyptiens de l'Antiquité, très grossièrement, et les Arabes, qui sont le descendant des tribus arabes qui se sont installées depuis le 7e siècle en Égypte. Et si vous connaissez l'Égypte contemporaine, c'est toujours le même cas. Les gens font parfaitement la distinction entre ce qui est égyptien proprement dit et ce qui est arabe dans la langue courante. Pour les Ottomans, les Turcs, le mot turc, signifie à proprement parler les paysans anatoliens, c'est-à-dire des bouseux, des êtres frustres attachés à la glèbe, tandis que le mot ottoman renvoie à la classe dirigeante, c'est-à-dire à ceux qui appartiennent à la maison d'Osman. C'est ça que ça veut dire au départ, ottoman, Osmanlı. Osmanlı, ce sont ceux qui appartiennent à la maison d'Osman, c'est-à-dire au sultan. Alors, ces Ottomans sont des êtres cultivés et raffinés. Ils sont produits des écoles appartenant au système des beys, des maisons, où sont formés les cadres de l'Empire. Donc, même s'ils sont d'origine servile, ce sont des gens qui ont été élevés dans une culture de palais, en quelque sorte. Et ça va être terrible, d'ailleurs, pour les historiens contemporains, c'est comme les Ottomans auront l'occasion de revenir vivre dans la culture du manuscrit, le grand jeu de ces fonctionnaires de l'Empire est de montrer leur virtuosité stylistique dans leurs écrits gouvernementaux, ce qui fait qu'ils ont une langue d'une richesse exceptionnelle et qui donne en général une grosse migraine à ceux qui essayent de déchiffrer ces textes, puisque le jeu littéraire, parce que faire même une dépêche est un jeu littéraire dans lequel le haut fonctionnaire ottoman doit montrer sa virtuosité stylistique, culturelle, linguistique, et etc. La langue ottomane elle-même, l'osmanle, étant une langue qui est un mélange de turc, d'arabe et de persan. C'est-à-dire dans la même phrase, qui peut faire plus qu'une, en longueur plus qu'une phrase de Marcel Proust, vous avez des structures grammaticales des trois langues qui sont mélangées. C'est encore un effet de virtuosité stylistique. Bien évidemment, le janissaire de base dans sa province arabe, lui, il n'est pas un grand styliste sur le plan littéraire. Et il parle un turc ottoman beaucoup plus simple. Ce turc ottoman a d'ailleurs pénétré les dialectes arabes du Proche-Orient, qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de mots d'héritage turc. C'est exactement le même phénomène linguistique qui se produira dans le contact entre le français et l'arabe en Afrique du Nord, avec le passage de mots français dans les langues arabes et de mots arabes dans la langue française, le grand vecteur étant l'armée coloniale française au XIXe et XXe siècle. Des études récentes ont montré que l'invasion massive des mots arabes dans la langue populaire française vient de la Première Guerre mondiale, avec l'arrivée de l'armée d'Afrique sur le front français. Et énormément de mots arabes sont à ce moment-là entrés dans la langue courante française à cette occasion. Bon, ça, c'est un excursus. Donc, depuis le début de la conquête arabe, mais même avant, oui, depuis la conquête arabe, pardon, excusez-moi, pas de la conquête ottomane, de la conquête arabe au 7e siècle, l'ensemble des régions allant de la frontière Anatolie, enfin des limites de l'Anatolie jusqu'aux limites de l'Égypte, est appelé Bilad al-Sham, le pays de Sham. Sham étant Damas. Les Ottomans ont appelé originellement cette région l'Arabistan. Sans autre précision, et puis ensuite, à fur et à mesure que le temps passait, ils sont passés d'Arabistan à Sham. Alors, ce mot Sham, comme vous le savez peut-être, enfin, nous aurons l'occasion largement de revenir dessus, mais il vient de connaître une résurgence dans un groupe politique qui s'est créé cette année, l'État islamique, en Irak et en Sham, ce qui a provoqué des problèmes de traduction compliqués pour savoir si on devait traduire Sham par Syrie ou par Levant en 2014. Mais là, c'est un peu loin de nos préoccupations. Donc, ce qu'il faut noter, évidemment, c'est que pour les intéressés, cette vaste région, c'est le pays de Cham, et pour leurs voisins aussi. Pour les Ottomans, c'est le pays de Cham, et pour les Égyptiens, c'est le pays de Cham. Dans la vision des Égyptiens de l'époque ottomane, Cham commence à Elarish, dans le Sinaï. Et donc, quelqu'un qui vient de Cham est un Chami, pluriel Shawam, qui est établi en Égypte. Si les populations sont arabophones et ont évidemment un sentiment de différence avec le reste de l'Empire, les identités constituées sont référenciées par les lieux d'origine, villes et villages, et par les professions. Si vous prenez l'onomastique arabe contemporaine, qui est héritière de ce système de référents, vous avez essentiellement des référents professionnels ou des référents de lieux. Le prestige des généalogies, en revanche, renvoie les grandes familles au premier temps de l'islam, soit avec un lignage chérifien, c'est-à-dire de descendants du prophète, soit avec des lignages renvoyant aux compagnons du prophète. Et donc, c'est là la grande différence entre les provinces arabes et les autres provinces ottomanes, c'est que dans les provinces arabes, vous avez des familles avec des généalogies qui ont des siècles d'histoire, généralement revendiquées. On peut contester peut-être que les Khalidis de Jérusalem descendent de Khalid ibn al-Walid, conquérant de Jérusalem. C'est discutable. Mais en tout cas, ils sont considérés comme tels. Les Bakri descendent d'Abou Bakr, et ainsi de suite. Vous n'avez pas ça dans le reste de l'Empire. Vous avez des familles de notables en Anatolie et dans les Balkans, mais par définition, ce sont des conquêtes récentes de l'islam. Pour l'Anatolie, ça commence dans la seconde moitié du XIe siècle, et pour les Balkans, après 1350. Donc, vous ne pouvez pas avoir en Anatolie ou dans les Balkans de grandes familles ayant 1000 ans de généalogie ou plus derrière elles. C'est donc un fait fondamental que les sociétés du Proche-Orient sont des sociétés à référence généalogique permanente. Et d'ailleurs, dès que quelqu'un s'enrichit sur place, il s'enrichit d'une généalogie. C'est un peu l'équivalent des titres de noblesse dans l'Europe chrétienne. Dès que quelqu'un, même s'il est d'extraction très populaire, s'enrichit, devient important, il se dote d'une généalogie le renvoyant à la péninsule arabique, qui puis s'il continue à grandir dans ses ambitions, il finit par être descendant du prophète. C'est pour ça qu'on a parfois quelques doutes sur les lignages, pour répondre à une question qui a été posée ce matin en séminaire. Mais, en tout cas, donc, même les gens les plus simples, en Syrie, renvoient à des généalogies qui peuvent les renvoyer jusqu'à des tribus arabes, et les gens ont théoriquement la mémoire des généalogies. C'est encore en plein XXe siècle ou XXIe siècle, je peux vous garantir que les gens ont la mémoire théorique de leur généalogie. Tandis que dans le reste de l'Empire, c'est moins le cas, puisque c'est des conquêtes beaucoup plus récentes, comme je l'ai expliqué. C'est une société d'ancien régime, donc divisée en groupes, en corporation de métier pour les professions urbaines, avec des normes professionnelles et morales très strictes pour les sociétés urbaines. Les musulmans, en plus, sont généralement affiliés aux grandes confréries soufis, mystiques, dont certaines s'étendent bien au-delà des provinces arabes. On est d'un monde d'ancien régime où les solidarités de groupes, de quartiers, de métiers sont extrêmement importantes, ce sont des structures sociales. Question complexe, surtout aujourd'hui, qu'est le statut des non-musulmans ? Il est clair que les non-musulmans ont certainement bénéficié des conquêtes ottomanes dans les provinces arabes, ne serait-ce que pour un premier phénomène bien établi maintenant, alors que le nombre relatif et absolu de non-musulmans diminuait de façon constante depuis les conquêtes arabes. À partir du XVIe siècle, le mouvement s'inverse. Les non-musulmans dans les provinces arabes voient leur nombre relatif et absolu croître plus vite que celui des musulmans. On aura l'occasion d'y revenir pour essayer de comprendre ce phénomène de longue durée, parce qu'il va durer 4 siècles. L'une des explications qui est donnée, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que les familles chrétiennes et juives sont des familles stables, puisque le divorce est interdit, tandis que les familles musulmanes sont des familles recomposées, parce que la réputation est très pratiquée. Donc on a un système de mariage instable dans les populations musulmanes et un système de mariage stable dans les populations non musulmanes. Et ceci, selon un certain nombre de démographes, permettrait une plus grande, un plus grand nombre d'enfants dans les populations au mariage stable que dans les populations aux familles recomposées. Au passage, vous éliminerez l'idée que la polygamie favorise la natalité, c'est l'inverse. Parce qu'en général, dans toute société, la richesse se concentre sur la classe des gens les plus âgés. Et la polygamie est un signe de richesse. Donc, pour avoir des gens polygames, il faut être riche, et pour être riche, il faut être âgé. Et biologiquement, il est entendu que les gens âgés ont moins d'enfants que les gens jeunes. Donc, la polygamie, loin de favoriser la natalité, la défavorise. Ce sont les études démographiques qui l'ont démontré. Donc, ces non-musulmans sont définis comme des protégés selon un ensemble de textes, qu'on appelle des dhimmi, qui sont héritiers des premiers siècles arabes, période sur laquelle on n'a pas beaucoup d'informations au départ, puisque, de fois pour toutes, ce qui se passe dans le premier siècle de l'islam, on ne sait pas trop. On sait ce qu'on a dit les musulmans d'après. Mais sur le moment, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais ce qui est assez clair, et de toute façon d'une banalité affligeante, c'est quand les conquérants arabes sont arrivés au 7e siècle, ils formaient une petite et étroite minorité par rapport à une population chrétienne et accessoirement juive. Donc, ils ont instauré ce qu'on appellerait dans le système colonial européen des codes de l'indigénat. Et le système de protection de Dhimmi n'est qu'un code de l'indigénat qui simplement a été sanctionné par des autorités religieuses des premiers siècles de l'islam et donc qui sont devenus des systèmes de référence, même si à partir du XIe siècle, c'est-à-dire après 3 ou 4 siècles, seulement les musulmans commencent à devenir majoritaires dans les régions du croissant fertile. Autrement dit, si vous voulez, très grossièrement et autant qu'on puisse le savoir, c'est dans les décennies qui précèdent les croisades que les musulmans deviennent majoritaires au Proche-Orient. Dans cette situation, et comme on est dans des systèmes d'anciens régimes fondés sur l'honneur, les protégés sont des gens désarmés et quelque part déshonorés. c'est-à-dire qu'ils sont soumis à un certain nombre de restrictions humiliantes. C'était le cas des non-chrétiens dans l'Europe chrétienne dans la même période. Les gens portaient des tenues différentes, mais ceci est valable dans toutes les sociétés de la même époque. Dans l'Europe chrétienne, les gens portent des tenues différentes selon leur profession, leur métier et leur rang d'honneur. Vous n'avez qu'à relire Jacques le Fataliste de Diderot et l'épisode du bourreau pour voir que ce c'est que d'être une personne déshonorée parce qu'elle manie du sang, donc impure, dans la société française du XVIIIe siècle. Et ces mêmes mécanismes fonctionnent dans les sociétés islamiques. Cela dit, le fait que régulièrement les édits impériaux rappellent aux habitants qu'il faut respecter les règlements semble indiquer que les règlements ne sont pas respectés. Et que de façon générale, la pratique réelle est en fonction de rapports de force et de rapports de sociabilité et pas en fonction de textes qui sont inlassablement répétés par le pouvoir. Et là, nous allons faire la pause pour...